Actu SF, les podcasts.
Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, en ce samedi soir, on fait la fête aux éditions La Volte, hein, spécial anniversaire, en se demandant comment ça marche. Alors pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais commencer par vous lire un manifeste, enfin le début du manifeste de Valerio Evangelisti, que vous pourrez retrouver sur le site de La Volte. C'est parti. Quelle littérature sait interroger la réalité présente ? Se confronter au pouvoir moderne, à son anonymat, à la multiplicité de ses réseaux ? Prendre la mesure du rayonnement doctrinaire, de la machine du contrôle social, de l'envergure planétaire des ambitions, en jouant avec les systèmes mondes, en manipulant les hypothèses, la science-fiction constitue un de ces laboratoires où se lisent l'intime composition chimique du monde actuel et les forces qui le feront entrer en explosion. Tandis que la grande littérature se complaît à l'ignorer, la littérature des étages inférieurs a fait de l'époque son objet de prédilection. Je fais là allusion à la science-fiction. Par nature, le genre est maximaliste et incline à traiter de vastes sujets. Peinture des mutations à large échelle, dévoilement de systèmes occultes de domination, dénonciation des effets tragiques ou bizarres de la technologie, invention de sociétés alternatives. Avec la métaphore, la science-fiction a su percevoir, mieux que toute autre forme de narration, les tendances évolutives ou régressives du capitalisme contemporain. Cela lui a souvent permis de dépasser les limites habituelles de la littérature et de se répandre dans les mœurs, les comportements, les façons de parler ordinaires, dans la vie quotidienne, en un mot. Mathias Echenet, bonsoir.
Bonsoir, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein.
Non, c'est Valerio Evangelisti. Alors, l'origine de La Volte, est-ce que...
L'origine de La Volte, d'abord, en fait, nous fêtons nos 15 ans. Donc, on a créé La Volte en 2004. Pour publier La Horde du Contrevent. Pour ceux qui n'ont pas lu La Zone du Dehors, je peux leur dire que le nom de La Volte provient de La Zone du Dehors, qui était le premier roman d'Alain Damasio qu'on avait publié dans une petite maison d'édition quelques années avant. Si on lit La Zone du Dehors, quelque part, c'est un peu programmatique. Mais pour ceux qui ont lu La Zone, des fois, je les déçois en leur disant qu'on est plutôt la Molte, des fois. Mais voilà. Il y a La Molte et La Volte dans La Zone du Dehors.
Et après, parce qu'on fait un premier livre.
C'est le début. L'idée, elle était de publier ce qu'on avait envie de publier. Bon, ça, tous les éditeurs vous diront ça. Que pour ce faire, on n'a pas créé une structure énorme. Et donc, on a créé quelque chose dans laquelle il n'y a pas de salariés. Avec une idée de faire 3 ou 4 livres par an, tels que mes goûts ou les goûts de mes amis pouvaient être. Ils ont fluctué éventuellement ces goûts, mais notre référence, par exemple, c'est des présences du futur que vous pouvez acheter encore d'occasion, les présences du futur des années 90. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très riche cette collection, et beaucoup de Français, francophones qui travaillaient autant les idées, l'histoire que la forme. Voilà, il y avait aussi cette idée de la forme. Et puis l'idée était de faire des choses qu'on avait envie de faire sans vraiment soucier de rentabilité ou de performance. Donc en gros, ça peut paraître négatif, mais quand on connaît l'histoire de la Horde ou de la Zone du Dehors, on pouvait crânement dire nous on fait les choses que les autres veulent pas faire. Donc souvent c'est négatif, mais en fait pour nous c'est parfois positif.
Et du coup 15 ans après, c'est toujours la même façon de fonctionner?
Pas loin, ça a un peu évolué. Disons que, alors 15 ans après, on voit a posteriori davantage une sorte de ligne éditoriale, enfin qui fait un peu comme ça, qui est alors quelque chose dans les interstices, qui a à voir avec des interstices, bon, on pourra y revenir. Et cette façon de fonctionner, on va dire, assez, pas associative, mais pas loin, c'est-à-dire avec beaucoup de volonté et beaucoup de passionnés, les auteurs étant... également très actif dans la maison, On a quand même depuis 2 ans, on s'est un petit peu mieux organisé parce que l'idée c'était de faire, je sais pas, de l'artisanat mais au bon sens du terme et pas nécessairement bricoler quoi. Donc à un moment, quand on a plus de livres, quand on a des livres qui se vendent bien, et qu'on veut mieux communiquer, faut quand même s'organiser un peu. Mais disons que c'est quand même une structure assez souple, à géométrie variable. C'est comme s'il y avait une petite horde sur chaque projet et que ça génère une énergie. Parfois, en plus, on fait des albums avec de la musique et on fait des soirées un peu particulières autour de la musique, je précise. Et que voilà, il y a cet esprit, on est un peu mieux organisé. Voilà, on n'a toujours pas de bureau, enfin, c'est chez moi et les uns et les autres sont chez eux.
Ok. Alors, ça va être un peu particulier pendant cet échange parce que si jamais vous avez envie de poser des questions et de rebondir sur quelque chose, je prends un tout petit temps de pause. À chaque fois, vous levez la main et c'est reparti. Donc là, c'est bon pour l'instant, pas de réaction. Ok, alors on continue. Donc, en termes d'organisation, il y a ce côté artisanal, ça se passe chez toi. Pour autant, justement, quand on voit le succès de Damasio, c'est pas un petit succès. Comment on gère comme ça un énorme succès alors qu'on est une structure qui ne veut pas être trop énorme?
On fait du surf. Voilà, on fait du surf. Donc, on est plusieurs et on s'était préparé. Ça fait quand même, on a eu le temps pour se préparer. Hein. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent de pas mal de choses. Donc, on est vraiment un petit groupe. Ce qui n'empêche qu'on a été. J'ai été un peu dépassé quand même par les événements. C'est quand même, ça a démarré très, très fort. Mais on était prêts, quelque part, en communication, pour le dire comme ça, savoir ce qu'on voulait porter. On a réfléchi sur, re-réfléchi sur nos valeurs et d'aller plus loin par rapport à certaines valeurs, par rapport au logiciel libre, par rapport à une société de surveillance, par rapport aux questions de genre, par rapport à beaucoup d'aspects. Ça, c'était bien de faire un point et de regarder aussi le chemin qu'on avait parcouru et puis se préparer à ce qui arrivait. Donc des gens à la communication, des gens pour créer des événements parce qu'on tourne beaucoup en ce moment. Alors on tourne beaucoup avec Alain Damasio, mais au deuxième semestre il y a aussi une partie de la bande pour faire des choses sur scène ou dans des librairies, donc en groupe. On a des personnes qui s'occupent plus de ce qui relève des romans étrangers, des droits étrangers. Voilà, on est un peu plus prêt maintenant. Peut-être que je dirai pas la même chose dans un mois où on sera totalement submergé, on aura pris la vague.
Alors, du coup, on parle beaucoup d'Alain Damasio. Forcément, la Volte est connue.
Mais il n'y a pas qu'Alain Damasio.
On a des auteurs qui sont ici. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale particulière?
Mais tout à fait.
Laquelle?
dans 15 ans, on verra encore un peu plus clair, quoi. Disons que pendant... Alors déjà... une sorte de regret mais ou de coming out, c'est pendant 10 ans, oui c'est vrai, j'ai essayé d'éviter le terme science-fiction tout en disant que je savais pas ce que c'était que la science-fiction, et puis que en plus on se prenait vraiment des murs parfois. Ça vous arrive peut-être à vous amateurs, dès qu'on commence à parler d'imaginaire ou de science-fiction, on a des gens, des interlocuteurs où on voit leur regard se voile, leur cerveau se ferme et il n'y a plus rien à faire, c'est bon, hop. Alors, dans notre cas, en plus, il faut comprendre que le succès de l'Ordre du Contrevent, déjà, nous avait amené à être dans les rayons de science-fiction. Donc, tout ce qui est un peu imaginaire, en tout cas, qui n'est pas réaliste, contemporain totalement, et qui parle de nous aujourd'hui, finalement, on bascule dans ce grand, grand machin de littérature, au pluriel, de l'imaginaire ou de science-fiction. Bon, en même temps, on cherchait une sorte de légitimité pour dire, mais regardez, nous, on fait de la littérature, c'est quand même, lisez, enfin, ouvrez, c'est quand même, enfin, il y a un effort à faire, il y a quelque chose de qui relève de la recherche. Mais maintenant, depuis 5 ans, on veut bien parler de science-fiction parce que de toute manière, c'est à nous de l'habiter, de dire, la science-fiction pour nous, c'est ça, ou la science-fiction pour tel auteur, telle autrice, c'est ça. Je vous ai pas défini la ligne, hein, vous avez remarqué. Non, hein. Alors très bien, alors je vais vous dire, on a réfléchi et on a dit, il y a 3 termes qui définissent, non, définir c'est beaucoup dire, qui donnent des jalons par rapport à notre ligne quand on regarde après coup. Il y a quelque chose à voir avec, alors en effet les interstices, qui est une façon de... Alors ça existe, hein, il y a eu une collection qui s'appelait Interstice chez Calman Levy, dont j'adore bien des titres. Il y a aux États-Unis, ou je ne sais pas où aussi, ce qui s'appelle la littérature interstitielle, en anglais. Et c'est une façon de se définir par rapport aux autres, donc c'est quand même pas très clair. Mais quand même, les anfractuosités, les coins, tout ce qui n'est pas nécessairement exploré ou qui est un mélange de plein de genres, ça quand même, ça m'attire beaucoup. Donc on va dire interstice, à défaut de dire telle science-fiction, ce qui ne veut rien dire pour moi, ou parler de littérature, ce qui englobe quand même tout, enfin tout ce qui est fiction. Alors voilà, premier terme, interstice. Deuxième terme, ça c'est plus récent, j'en parle pas encore très bien, donc on se donne rendez-vous hein, dans 10 ans, donc c'est ou 15 ans, c'est le langage. Parce que je m'entendais dire, quand on me demandait c'est quoi être éditeur et tout ça, je disais, alors d'abord c'est un coup de cœur, et ensuite c'est du style. Mais ça, tous les éditeurs, ils vous racontent ça, ils y croient ou ils y croient pas, mais voilà, ça veut rien dire. Et au-delà du style, et je vois par rapport à des manuscrits qu'on reçoit ou des livres que je lis, ça va vraiment au-delà, ça relève du langage. Et le langage, il y a des gens qui ont écrit beaucoup d'essais là-dessus et qui, évidemment, vous parlent de la perception, c'est la perception qu'on a de la réalité, c'est la perception qu'on a du monde, c'est aussi quelque chose qui nous permet de changer le monde aussi en modifiant et en créant d'autres termes ou en faisant vivre la langue. Donc voilà, le langage est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Parfois, ça nous donne un petit côté snob, c'est un peu expérimental, mais on va dire que c'est un principe actif. Voilà. Donc je sais pas, langage, ça me plaît. Il faudrait que je lise plein de livres de Todorov et autres pour parler de tout ce que ça implique. Mais voilà, un style, ça veut rien dire. Être bien écrit, je sais pas. Moi, j'aimerais des choses quand je les lis, elles me créent un choc, elles me changent, elles m'amènent à regarder autrement le monde. Voilà, et c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux porter. Auprès des lecteurs. Et le troisième terme, on va dire idée, mais ça voudrait dire que les autres n'ont pas d'idée, donc ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que si on est dans la science-fiction, on peut aller jusqu'à penser qu'on est plutôt le versant dans les courants de science-fiction, avec tous nos amis qui sont là, ou ils ne sont pas tous là, mais dans la bulle, on est plus politisé, on a plus une vision politique, on a une vision de la société, critique, mais pas que critique. Donc cet aspect vraiment littérature d'idées, je dis pas engagé non plus parce qu'engagé, je ne sais pas ce que c'est, je doute beaucoup, hein, vous avez vu, mais engagé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce côté vraiment vision de la société ou science-fiction politique pourrait effectivement nous approcher quelque chose de cette ligne éditoriale. Un télo.
Donc menteur. Vous êtes un télo. Qui vous
C'est pas vrai, il vient de partir. Et d'ailleurs, oui.
Oui, d'ailleurs, donc, Jacques Barbéry vient de partir, Sabrina Calvo
se cache.
Donc dans la maison, il y a quand même des sacrés noms et qui font des choses fort différentes, donc qui illustrent bien, il me semble, moi, ces trois mots. Mais comment ces rencontres se sont faites?
Ouais, ça se fait au fur et à mesure. D'abord, il y a des, on va dire, on a commencé, il y a des livres dont on ne parle pas, mais enfin non pas parce qu'on l'était, mais on ne peut pas parler de tous les livres. J'ai calculé, on vient de sortir un livre en mai, c'est le 70e, voilà, on est à 70 livres. Ça fait beaucoup, pas beaucoup, enfin en 15 ans, faites la moyenne. Le dernier, c'était Doris Lessing, donc ça, on ne l'a jamais rencontré. Mais on a commencé par Alain Damasio. On a enchaîné avec Stéphane Beauverger et pour le coup, voilà, c'était des auteurs inconnus. Alors que Sabrina Calvo, Jacques Barbéry, Philippe Curval sont des auteurs qui étaient publiés ailleurs c'est pareil, et qui continuent de publier ailleurs. Léo Henry également a publié ailleurs, pour ceux qui connaissent, et il continue parfois de publier ailleurs. On va dire que ils ont mené des projets ensemble dans le jeu vidéo, par exemple la boîte de Dontnod. Il y a Sabrina qui travaille en ce moment, qui mène des projets là-bas. Il y a Stéphane Beauverger qui est englouti, d'ailleurs il ne publie pas celui-là depuis 8 ans, au moins, je ne sais plus, je ne compte plus, qui est à fond là-dedans. Mais il y avait eu Alain avec Léon Henry, avec Stéphane Beauverger, avec toute une bande. Donc ça crée aussi des points communs et des sujets communs, et ils se retrouvent en fait en étant très différents. Donc voilà, il y a des liens d'amitié, ils écrivent effectivement pas la même chose, et aujourd'hui certains sont même dans un autre groupement. Alors là, je vous donne plein de choses, mais dans tous les sens, mais c'est Zanzibar. Et ça, c'est génial. Zanzibar, c'est un groupement d'écrivains dont certains ne donnent pas leur nom. Il y a même, si vous allez sur leur site, il y a même des noms de gens qui sont morts et d'autres qui n'y sont pas, d'autres qui y sont. Et vous avez une partie de cette bande-là ou d'autres qui nous rejoignent, qu'on voit d'ailleurs dans certaines anthologies de nouvelles qu'on a pu éditer. Et Zanzibar, on voit vraiment que c'est une envie d'être ensemble, éventuellement d'écrire ensemble, mais ils ne le font pas beaucoup ensemble. Mais c'est une envie d'ouvrir quelque chose. Donc, ils partagent par Zanzibar, ils partagent quelque chose qui est de... Alors, en général, ils se mettent d'accord pour dire... D'abord, c'est un courant hétérodoxe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Hein. Et puis, d'autre part, qu'ils veulent, en tant qu'écrivain de science-fiction, par la fiction, hein, pas par des essais, vraiment par du texte, ouvrir, proposer d'autres, casser les mythes un peu qu'on nous vend sur les GAFAM, par exemple, ou l'avenir numérique, l'avenir unique qui semble nous être ouvert. Et donc, c'est par des fictions pouvoir casser ça. Et par des expériences de littérature assez... on a fait des origamis qu'on a cachés dans des livres que personne n'a trouvé d'ailleurs, je pense. Mais on a passé beaucoup de temps à les plier et puis à les cacher je sais plus, il y avait un pad pendant Nuit Debout. Enfin, voilà. Et ensemble, il y a aussi tout un aspect en prise avec l'actualité, avec la politique, par la fiction. Et souvent, quand il y a des interventions de Zanzibar, il y a eu des perférences, c'est-à-dire sur scène avec de la musique, avec des images, certains déguisés. Catherine Dufour déguisée en méduse de l'espace, par exemple. C'est une vraie méduse de l'espace, et de créer aussi de porter de la fiction avec du mélange de conférences et de musique. Et on voit qu'il y a vraiment plus qu'une complicité. Voilà. Un journaliste aurait pu dire que c'est un courant littéraire, comme, je ne sais pas, le nouveau roman, il y a un courant littéraire qui, en réalité, quand on regarde, ils n'écrivaient pas du tout la même chose. Ils avaient une volonté commune, ils s'entendaient très très bien. Mais aujourd'hui, on dit nouveau roman, c'est ça, mais bon, voilà, il voulait faire... on va pas parler du nouveau roman, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des trucs de journaliste, donc c'est une façon de dire qu'il y a un courant. On s'en fiche, il y a un mouvement, en tout cas. Voilà.
Ouais, mais dans les mouvements, quand tu regardes tout ce que les surréalistes ont pu inventer comme structure et qu'ont périclité au bout de quelques mois ou de quelques années, puis ils en ont refait d'autres, etc., là, la Volte, ça fait 15 ans, quand même.
Donc, bah ouais, ça fait longtemps, quoi.
C'est ça.
Non, c'est ça.
Comment tu gardes l'énergie? Parce que des initiatives, des happenings, tout ce dont tu parles là, ça nourrit.
Ouais, c'est le foyer, c'est le foyer en termes d'âtre. Enfin là où ils sont en mouvement, je trouve, et ce mouvement m'alimente et on s'alimente les uns les autres et les gens qui sont aussi avec nous. Ouais, c'est vraiment la question du mouvement. Et j'avais pas prévu de monter une maison d'édition pour ne pas durer, enfin c'était pas la question, mais effectivement on voit que c'est encore actif et qu'il y a plein de choses qui se passent et que même entre eux, je pense voir même des influences parfois qui les amènent à écrire certaines choses, tout en étant vraiment très, pas individualiste, mais vraiment sur leur écriture et leur histoire. C'est un mouvement qui s'alimente parce que ils ont cette volonté. Zanzibar, des fois il se passe vraiment rien, des fois on part dans le Beaujolais pour faire des ateliers d'écriture, faire des cocottes aussi, ça c'est Léon Henry, et donc et faire du tricot, ça c'est d'autres, et donc ils y adorent. En fait, je pense que ce sont des écrivains qui ont une force intérieure de recherche, d'envie toujours et de se renouveler beaucoup, mais le fait de se côtoyer, le fait d'écrire des textes à la con des fois entre eux et de discuter, les alimente, et donc ce mouvement il continue.
Et toi du coup, parce que la structure, faut quand même que ça fonctionne, faut tout un réseau, faut diffuser, est-ce que des fois tu mets des barrières, ou est-ce que c'est une ouverture de leur proposer ce foyer-là? Est-ce que tu as l'impression des fois de jouer au papa qui pose des limites?
Alors oui, je pose régulièrement ça et je me les fais exploser quasiment immédiatement. Et donc voilà, souvent je fais la gueule en fait et je dis non, mais on va pas faire comme ça. Donc en général, quand j'ai dit ça, c'est qu'on va le faire. Là, il y en a deux qui me prennent la tête là, encore pour publier certains auteurs. Donc un jour, je craquerai. Ah, bon, et donc c'est vraiment le côté des fois j'essaye d'être raisonnable et puis à la fin on se dit mais on s'en fout, c'est tellement bien, on y va, voilà. Et voilà, donc il y a un rapport parfois papa, mais enfin c'est plutôt le papa qui se fait engueuler, j'ai l'impression. Hein. Quelque chose à dire, toi?
Non.
Facho. Bah non, j'aimerais bien être facho, j'arrive pas, vous me laissez pas. Bon.
Donc un fâcheux dépité.
Et pour la diffusion, c'est un auteur frustré, une autrice frustrée, hein, je suis désolé. Pour la diffusion, là, pour le coup, c'est très classique. Hein. D'abord, c'est une société hein, qu'on a créée, on a mis plein d'argent, ça fait moins rêver, ça. J'avais un boulot à côté jusqu'à il y a 3 ans. Donc voilà, c'est pas une prise de risque, en fait, c'est une vie qu'on passe à faire ça et on se paye ça comme certains auteurs éventuellement ont une vie à côté pour pouvoir avoir la liberté d'écrire.
Plein en fait.
Oui, parfois contraint effectivement, mais aussi. Mais voilà, et donc on a un diffuseur qui va vendre les livres et on a un distributeur qui les achemine. Voilà, ça c'est on va dire une structure professionnelle qui s'en occupe. Nous on fait les livres. Voilà, et on les fait des fois avec des typos particulières pour ceux qui ont vu. Ou sur les couvertures, on essaye de toujours faire des beaux objets. Des fois, on réussit, des fois, on réussit moins. Et c'est des choses qu'on voit peut-être pas tout de suite, mais à mon avis, qu'on ressent. D'abord, on est très fiers aussi, on est content d'avoir fait ça. Et puis, peut-être qu'en le lisant, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plein d'énergie qui sont là et qu'il y a une mise en forme, une mise en page. Il y a beaucoup aussi de livres avec de la typo, parfois avec des illustrations. Oui, de temps en temps. Donc, tout ça, ça alimente, ça génère quelque chose. De particulier, ouais, c'est pas très original ce que je viens de dire.
Mais si.
Si, c'est vrai.
Et du coup, là, tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué Doris Lessing très très rapidement. C'est le 4e titre. C'est pas n'importe qui quand même qui arrive là. C'est étonnant de la retrouver, enfin, un prix Nobel de littérature.
Bah, comme on n'arrivait pas à avoir de prix littéraire majeur, on a dû. C'est le mercato, quoi. Vous voyez, elle était morte, personne n'en voulait. Doris Lessing, d'abord on le vend pas du tout, donc vous ferez bien d'aller regarder les livres en sortant parce que c'est un auteur extraordinaire. Elle est donc morte il y a quelques années et une partie de ses livres donc sont portés au Pinacle et une partie de ses livres qui sont plus visiblement de la science-fiction n'étaient même pas traduits en français. Donc, on s'est dit, ben on y va parce que je trouve ça extraordinaire. On retrouve plein de préoccupations. Là, on lisait, ben on distribue même une préface écrite par Catherine Dufour qui cite une préface de Doris Lessing. Vous voyez, c'est la mise en abîme et vraiment ce qu'elle a écrit. Bon, alors c'était il y a 30 ans, c'est pas ou 40, c'est incroyable, c'est hyper actuel. Cette recherche de forme, cette recherche d'expérience, de comment ça ferait si. Le what if, vous savez, de certains livres de science-fiction, c'est vraiment, je sais pas si elle aurait été voltée, mais c'est très très fort, très très fort, très très fort la question des genres aussi. Enfin, voilà. Donc, on l'a fait comme d'habitude parce que personne voulait le faire en fait. Voilà, hein, c'est tout. Et puis on peut dire qu'on a un prix Nobel. En attendant d'en avoir d'autres, bien sûr.
Réaction.
Ah, t'avais dit que t'interviendrais, mais alors vraiment. J'ai pas dit de conneries, c'est pour ça encore trop, ouais, c'est ça, moi je vais essayer.
Il y a quelque chose qui me frappe, moi, quand je regarde 15 ans de publication et les 70 livres, c'est la charte graphique. Parce que là, on voit, c'est visuel, il y a la cohérence quand même, la même qui me semble apparaît dans la ligne éditoriale. Et comment tu bosses là-dessus, sur cette charte?
Là aussi je me fais engueuler régulièrement. On a deux personnes vraiment qui s'occupent de cette ligne graphique. On a Stéphanie Aparicio que j'appelle la créateur directive puisqu'elle est aussi directive qu'elle est créative. Et donc voilà, créative et directive, voilà, ça donne ça. Donc régulièrement elle dit non, c'est n'importe quoi ton idée. Et donc elle propose autre chose et puis des fois même souvent ce sont des auteurs qui proposent et Léo Henry dit moi je veux faire des couves, je sais pas si vous voyez avec Stéphane Perger, j'ai toujours avec Stéphane Perger et en même temps on en discute ensemble mais des fois je dis des choses et on dit mais non, n'importe quoi. Sabrina Calvo qui aussi décide avec Stéphanie de faire ses couves, voilà, c'est le fait qu'on soit cohérent, je sais pas comment dire, pas homogène non plus, mais voilà, qu'il y ait quelque chose qu'on partage qui rejaillit sur quelque chose qui n'est pas la charte graphique, il n'y en a pas en fait. Enfin voilà, c'est un ensemble. En revanche, j'aime pas, ça c'est vrai, j'aime pas les, j'en ai fait quelques-unes, mais très peu, j'aime pas les couvertures figuratives, c'est-à-dire avec des petits bonshommes et des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça tranche un peu avec ce qu'on voit dans la bulle. En plus, c'est bien, ça nous permet peut-être même d'être visible au milieu de la surenchère de couleurs de scènes de bataille ou de je sais pas. De toute manière, on n'a pas beaucoup de scènes de bataille, on n'a pas de vaisseaux spatiaux dans nos livres souvent, donc déjà, on n'a pas de dragon. Non, je réfléchis, on doit bien en trouver un. Et donc voilà, donc pour moi, ça porte quelque chose de pas nécessairement plus sobre, mais qui se veut. Voilà. C'est le temps qu'on prend, en fait, quelque part. Et le fait d'être ensemble qui aboutit sur un processus long, parfois douloureux, à une couverture qui nous semble être évidente à la fin.
Du coup, j'ai l'impression dans tout
c'est
ce
beau,
que
non
mais c'est beau, ouais. Et ouais. J'ai l'impression que dans tout ce que tu dis, le travail avec l'auteur, avec l'équipe, il est permanent. C'est pas l'éditeur qui dit ah bah tiens, ça c'est bien, ça va bien ouais. se vendre.
Non, oui, c'est ça. Pas bah, c'est ça, voilà. Oui. Non. Tartuffe. Ah, c'était bien.
Quand même.
Tu verras ton prochain livre, toi.
Et tu leur laisses le temps de travailler, du coup ?
Alors, ils le prennent toujours. Et donc, c'est vrai que ça, c'est ma partie... Mais j'adore en même temps, mais c'est ma partie raisonnable ou rationnelle qui reprend le dessus, des fois. Moi, j'essaie de me défaire de tout ça. Donc, avant, j'étais vachement plus sérieux. Vous verrez encore dans 15 ans. Mais... Donc, je dis non, mais là, il faut l'annoncer à l'avance, quoi. Faut... Et puis, on fixe des délais et on a des plannings tous ensemble. Là, j'en regarde certains... On a un truc sur Asana qui est partagé. En fait, j'ai perdu les codes, j'y vais jamais. Et donc on a des délais et les auteurs, certains et certaines, ont besoin de délais pour rendre leur texte. Ça les aide et on leur met un peu la pression. Mais souvent, ils dépassent leur délai. Alors, dans certains cas, on s'adapte. Des fois, au début, on a fait des bêtises. C'est-à-dire, on a laissé des coquilles, ça me rend malade dans certains livres. Parce que vous savez, il y a le travail du correcteur, quoi. Donc, si on revient derrière le correcteur et qu'on fait ça la nuit à n'importe quelle heure, et on va détruire le travail du correcteur. Bon, donc c'est mieux d'être organisé. Mais par exemple, en effet, pour reprendre le bouquin le plus récent, à savoir Les Furtifs, Alain nous a fait péter tous les délais. Il y avait correcteur et typographe, enfin une mise en page et tout ça. Mais en fait, ces 15 ans nous ont permis de jongler, de faire un truc périlleux. Nuit et jour, hein, ça c'est vrai. Dans les mais si je dis ça à un éditeur, mais il me croit pas, quoi. C'est-à-dire, il a réécrit la fin 5 jours avant que ça parte chez l'imprimeur. On était d'accord, hein, pour le coup, mais j'aurais pas été d'accord, ça aurait été pareil. Hein. Et on a réussi. Je crois qu'il y a pas trop de fautes. Il faut voir le machin. Et bah du coup, on était plusieurs, on était affûtés et ça c'est. Mais bon, voilà, c'était mince, le voilà. Et c'est n'importe quoi, Les Furtifs.
Il va être réédité de toute façon. Ouais. Tu pourras le refaire bosser. Non
ouais, c'est ça. Donc, on parlait des auteurs qui rendaient leur texte en retard.
Et des délais. des longs délais.
Et des délais, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye de poser des règles qu'on partage. Après, oui, c'est vrai que ça fait un peu démago de dire ça. Non, mais c'est l'auteur. Enfin, donc, voilà. Je pense qu'ils ont besoin parfois de délais, certains. Et en même temps, on doit suivre et essayer de s'adapter. Et des fois, on s'adapte. Et après 15 ans, on en a fait des conneries. On en fera encore, mais on en fait moins aussi. Voilà.
Il y a les recueils de nouvelles aussi.
Oui. Ça, par exemple, j'avais dit, mais jamais que je ferai jamais de nouvelles. Et on a fait plein de recueils de nouvelles. Et alors, il y a des recueils d'auteurs et d'autrices. Et il y a... pas d'autrices, d'ailleurs. Et il y a des thèmes qu'on lance et où on demande, pour l'instant, c'est comme ça qu'on a fait, à la bande et à ceux qui sont autour de la bande, au cercle, au cercle élargi, de jouer et de participer à des thèmes. Voilà, donc ça permet effectivement d'abord de faire connaître la Volte, d'avoir des nouvelles voix, et puis là, on transparaît quand même assez fortement, surtout dans le dernier au bal des actifs, sur le travail. Demain le travail, là vous avez effectivement, on prend vraiment le parti pris de, nous on fait de la science-fiction et on, voilà. Alors il y a beaucoup de textes qui sont critiques, qui disent le travail c'est pas bien, l'entreprise, tout ça, et ça le met en fiction, mais il y en a d'autres qui vont plus loin et ça met en fiction beaucoup des aspects de ce que recouvre l'emploi, le travail, l'entreprise. Alors Léo Henry, dans la dernière conférence, m'a trollé. Mais il était sur scène, il m'a dit ouais mais normalement on avait dit qu'on ferait un recueil débile et un recueil sérieux, on alternait, et là maintenant tu veux faire un recueil sérieux alors que moi je voulais faire un recueil débile sur la gastronomie, faire ça avec des chefs et tout ça. Donc on fera un jour, parce que Léo il veut le faire et que quand même on peut quand même bien s'amuser, des lancements avec des chefs, des choses comme ça serait drôle. Alors je sais pas s'ils écrivent à partir des recettes ou l'inverse, on peut voir. Mais le prochain, ça sera plutôt sur la santé. Donc, il n'aime pas ce côté construit, un peu commercial. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même tellement de choses à dire là-dessus qu'on va lancer, on va lancer un appel à texte, plus ouvert d'ailleurs. Donc, on va devoir beaucoup travailler pour, parce qu'on n'a jamais fait vraiment d'appel à texte ouvert. Parce qu'il faut s'organiser pour ça, il faut lire les manuscrits. On a déjà beaucoup de mal à lire les manuscrits. En gros, on n'y arrive quand même quasiment pas. Donc il faut s'organiser.
Tu reçois beaucoup des manuscrits ?
J'en sais rien. Non, mais c'est vrai, parce que ça va à une adresse manuscrit.mafin à la Volte, et c'est quelqu'un d'autre qui les regarde. Et je sais qu'on a au moins un an de retard, mais l'année dernière, on avait aussi un an de retard. À mon avis, ça se cumule. Je suis désolé, je voulais répondre quand j'ai créé une maison d'édition, comme plein de gens. Je me suis dit, on va répondre aux auteurs, on va. Mais en fait, on n'y arrive pas. J'ai encore un autre boulot. Il y a des gens qui sont là, mais qui ont aussi d'autres choses. Voilà, on n'y arrive pas. Donc, je ne saurais pas dire. On ne cherche pas. Enfin, si j'aimerais bien répondre et ne pas rater la prochaine pépite aussi, tout ça. Mais en même temps, en faisant, on est passé à 7-8 livres. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Enfin, depuis 2-3 ans. Déjà accompagner les auteurs et autrices, faire des anthologies, ça, à chaque fois je regarde un an à l'avance le programme, je me dis mais on en a trop, puis en général ça saute parce que certains et certaines sont en retard ou veulent repousser. Je te regarde pas, je regarde Lauriane à côté. Voilà.
Une réaction?
Ouais. Alors ça, c'est Violette. C'est vrai que tu voulais que je parle de Violette. Non, mais c'est horrible de dire ça. C'est un gros chat noir, elle s'appelle Violette. Tu veux que je dise quoi? Non, une fois, on a fait ça, c'était horrible. On s'est tous réunis, on dit, on va faire un sort au manuscrit papier. C'était donc il y a longtemps. Et c'était dans le jardin, on a sorti tous les manuscrits et on suivait le chat. Et quand il s'arrêtait sur un manuscrit, on le prenait. Mais ça ne veut pas dire qu'on le publiait. Je voudrais pas qu'on raconte n'importe quoi à ce sujet, hein, s'il vous plaît. Donc voilà.
Donc en gros, si on veut publier à la Volte, c'est mort.
Il faut donner des croquettes à Violette. Voilà, c'est tout quoi. Déjà, c'est déjà. Ah oui, les phéromones de Chabat, ouais, vous faire un truc quoi. Ouais. Elle a été coupée quand même, hein, je précise. Ouais, je sais pas comment on dit.
Oui. Donc bon, du coup, ça semble un petit peu artisanal. Est-ce que
artisanal. Artisanal.
Est-ce que tu point de vue technique quand même, toi, avec ton autre boulot, ton bureau chez toi, ton chat?
Alors, on a deux chats maintenant, mais on ne lit pas plus les manuscrits, hein, comme je précise.
Comment tu fonctionnes après sur le texte? Voilà, tu reçois leur texte une fois qu'ils ont bien voulu te le livrer.
C'est vrai qu'on peut parler des textes quand même, c'est important. C'est vrai. On fait les cons, mais... Alors, c'est à chaque fois différent. Enfin, ça dépend de la relation avec l'auteur. Disons qu'au début, j'avais une sorte de complexe où je disais que je n'étais pas éditeur, c'est-à-dire pour lire les textes, j'étais un lecteur, un amateur, voilà, donc je pouvais dire moi ce que je lisais. Et bonjour Marion. Et une éditrice qui lit les textes et qui répond aux auteurs. Presque, presque, c'est vrai. Et donc voilà, pendant longtemps, je disais voilà, moi, voilà ce que j'ai lu à travers le texte et je renvoyais éventuellement des questions en ayant en plus une position. Alors, et de temps en temps, je faisais lire à. Un de nos amis qui s'appelle Norbert Merjanian, qui est auteur aussi de science-fiction, quand il a le temps, et même à Stéphane Beauverger, donc c'est vraiment toujours la famille, hein, pour dire, voilà, tu pourrais, qu'est-ce que t'en penses quand j'ai des doutes, et éventuellement même qui travaille sur les textes, Sabrina aussi a travaillé sur des nouvelles, d'autres auteurs, autrices, voilà. Donc je me disais, ils sont, pour certains textes, je me dis, alors, lui ou elle, ils seront vachement plus forts que moi pour dire, voilà, il faudrait... peut-être renforcer cet aspect et tel autre aspect. Voilà, avec les années, je la ramène un peu plus sur les textes, mais ça dépend avec qui. Sabrina attend beaucoup de mes retours. En général, elle me raconte des trucs, je ne comprends rien au début, parce qu'elle m'explique que c'est en fait le roman sur de l'eau qui coule. Et à un autre moment, c'est sur Le Corbusier, qu'en fait, elle va expliquer Le Corbusier. Et qu'à un autre moment, voilà. Et c'est, tout ça, c'est le même roman, mais j'ai rien lu. Donc je dis oui. Oui, oui. Et après, elle parle, elle dit « Oui, merci, ouais, j'ai compris. » Il y a un petit côté un peu psy. Enfin, non, tu vois, c'est, moins j'en dis, plus ça marche. Dans d'autres cas... alors, effectivement, j'aime bien lire une fois que le roman est terminé. Et donc, il y a au moins deux auteurs dans cette salle qui font pas comme ça et qui m'envoient au fur et à mesure. C'est très sympa. C'est... enfin j'ai l'impression d'agir, je veux dire non c'est pas ironique là, c'est, j'ai l'impression d'agir et tout, et en même temps je dis bah moi en tout cas je suis plus éditeur que lecteur quoi, c'est-à-dire en gros il me spoil, bon ça d'accord, mais je dois essayer de me dire ok mais qu'est-ce que le lecteur il lira, moi on m'a parlé des personnages, on en a déjà discuté, donc peut-être que moi je suis déjà, je les connais déjà ces personnages, que pourrait penser un lecteur en lisant ce texte, voilà. Donc je suis un peu plus dedans et donc j'agis pas de la même manière. On est plusieurs à lire certains textes, on est même, oui, on peut être vraiment plusieurs. En revanche, évidemment, le cut final, hein, pour, voilà, la décision finale, c'est l'auteur. Voilà, c'est l'autrice, c'est l'auteur. Ça c'est, c'est comme dans beaucoup de maisons d'édition, je pense, mais c'est indispensable. Si à un moment, il y en a un ou une qui me dit « bah écoute, tu dis n'importe quoi, on fera comme ça », ou j'y tiens, bon, ouais, bien sûr, pas de problème.
Il y a des questions là-dessus ou ouais.
Alors c'est eux qui choisissent. Autre chose. Enfin, sauf Alain, il a pas eu le choix. Parce qu'il fait des gros livres de toute manière.
Justement, ouais. Oui.
Oui. C'est me contredire ou évoluer au contact d'autres parce que j'avais cette tentation de me dire ouais mais ça va pas se vendre, mais en fait ça nous est beaucoup arrivé de ne pas vendre des livres et qu'à un moment je suis persuadé, là plus sérieusement je suis persuadé, enfin c'est très prétentieux mais je vais quand même le dire parce que je fais un peu dilettante tout ça, le goût, mais je suis persuadé que les livres qu'on publie sont très importants. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est prétentieux, mais c'est comme ça. Et je me dis que de toute manière, qu'ils ne trouvent pas un public maintenant, ils le trouveront après. Enfin, c'est un ensemble. Et donc, les nouvelles participent de leur travail. Et certains sont même très, très bons en nouvelles. Et certains n'écrivent que des nouvelles. Donc, j'ai changé, mais je ne sais plus quand j'ai basculé. Mais à chaque fois que j'ai dit, toute manière, je ne ferai pas ça. Donc, au début, les nouvelles, c'était en disant, ouais, mais ça ne se vend pas, les nouvelles. Ouais, mais bon, comme je vous disais, toute manière, les romans, ils ne se vendent pas non plus aussi. Donc, c'est bon, voilà. Donc, pourquoi pas faire des nouvelles? Et puis, je ne sais plus, il y a un texte. Oui, le premier, parce que sinon Alain, il va me dire ça, c'est un manuscrit qu'on avait lu, un peu en retard, je crois, quand même. Et Norbert Merjanian, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a appelé. Il m'a dit, on ne se connaissait pas bien encore, donc c'est une question de style. Et il m'a dit, je suis en train de lire des nouvelles, c'est pas mal. Et moi, je lui ai dit, oh, moi, tu sais, les nouvelles, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, comme on ne se connaissait pas bien... maintenant on sait ce que ça veut dire quand il dit c'est pas mal, c'est comme plein d'ados en fait, quand il dit c'est pas mal ça veut dire que c'est génial, ça donne un peu plus envie quoi, vous voyez, et moi quand je dis que jamais je ferai, bah qu'à la fin ça veut dire que je ferai. Bon, maintenant on le sait et on a loupé comme ça un recueil de nouvelles qui s'appelle Yamaloka Terminus de ça vous paraît évident de Léon-Henri Jacques Mukeli. Voilà, c'est extraordinaire, et tant mieux, ça a été publié ailleurs, mais bon, quand même, ça m'a fait un peu mal, on s'est rattrapé, mais bon, c'est et on se connaît mieux avec Norbert, voilà, et avec les autres.
Vas-y.
Micro. Je sais pas si derrière les gens entendent, donc ouais.
Et du coup, c'est quoi le prochain truc que jamais vous ferez?
Ah, l'autre jour, je me suis vu comme... Je sais plus, j'ai dit, ah non, mais ça, on fera jamais, et je sais plus ce que c'était. Ah non, 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 ça, j'ai dit non. Ah non, mais j'ai dit non, en plus, non, non. Ah ouais, la dernière fois, ils échangeaient tous pour faire des tote bags pour les imaginales, mais moi, j'ai cru que c'était une blague. Et là, j'ai quand même dit, ça va pas, non, donc j'ai bloqué. Ouais, c'est super, ouais. Ouais, super.
Bah ouais.
Ouais, merci, ouais. T'as trouvé un truc? Ok, qui veut des tote bags? Ah, super, ouais. Ok, 200 euros? Qui veut des... Oh, merde. Oh, non, non, justement, c'est là où... Alors, j'en profite pour répondre sérieusement en même temps, c'est-à-dire... mais d'abord, on s'amuse bien, c'est vrai, c'est très important, et on y croit, enfin, il y a vraiment quelque chose de la conviction et de l'amusement, du plaisir, de la joie, même si ça ne s'inscrit pas toujours sur mon visage. Et... merde, qu'est-ce que je voulais dire?
Tu voulais dire un truc sérieux.
Je voulais dire un truc sérieux, c'est trop tard, j'ai oublié. Sur les tote bags, oui, c'est pour parler des tote bags. J'ai toujours peur, justement, moi j'étais en beaucoup en entreprise, même au commercial, et je pense qu'on fait, enfin, n'ayons pas peur des mots, on fait une sorte de marketing, enfin, nous, c'est-à-dire tout peut être marketing, ça dépend de comment on le fait, c'est-à-dire qu'on essaye d'être pour moi, on essaie d'être cohérent. Voilà. On essaie d'être cohérent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans les objets. On essaye, hein, dans les objets qu'on fait. C'est une sorte de positionnement, pour dire des horreurs. Mais du coup, aussi, je sais ce que je ne veux pas faire et tomber dans une sorte de merchandising, de licensing. Je sais, ça me fait horreur. Voilà, c'est tout. Donc, par exemple, quand on fait des livres avec des CD ou maintenant une carte de téléchargement, ce n'est pas pour faire du plus produit, quoi. C'est parce que ça fait sens, parce qu'il y a un musicien qui rencontre un écrivain musicien ou une ou un, et que ça fait sens, voilà. Donc pas de tote bag.
Et là, avec un énorme succès et une reconnaissance aussi...
Ouais, ça marche pas super, hein. Là.
Oui, mais en blanche, du coup, ils se sont aperçus que c'était pas mal quand même. Ouais. Et ça va se passer comment ? Tu le vois comment ? Enfin, ça change quelque chose pour toi, pour la Volt, que ça y est, les médias commencent à se dire, ah tiens.
Alors, je sais pas ce que ça va donner. Évidemment, ça change tout, enfin beaucoup de choses. La question, c'est est-ce que les médias, on va dire traditionnels, se payent un auteur de science-fiction et puis pendant 15 ans, après, ils arrêtent parce que ça y est, ils auront donné ? Voilà, ça peut se passer comme ça. Enfin, c'est bon, quoi. Voilà, c'est bon, ils ont fait. Maintenant, on considère qu'il est passé dans la littérature avec un grand L et les autres, on ne s'y intéresse pas toujours. Ça m'arrive depuis un moment, hein, c'est possible. C'est-à-dire d'accompagner donc Alain Damasio et puis il y a d'autres livres. Là, je suis avec mon livret et d'autres bouquins, même ça m'est arrivé une fois. Et, vous savez, et puis de voir là aussi que le journaliste, ça ne l'intéressait même pas. Bon. Donc ça peut être ça, et en même temps, moi je pense, parce que je suis plein d'optimisme, et je pense que ça va faire bouger les choses, rapidement, lentement, j'en sais rien, et on espère tous, et tous les auteurs et autrices, que peut-être que ça va faire douter, ou intéresser, ou piquer la curiosité de certains. Alors je parle de médias, mais en fait de médiateurs, hein, bibliothécaires, libraires, critiques, journalistes. En se disant, c'est peut-être intéressant, on va peut-être aller plus loin. Parce qu'en général, on est frustré effectivement par cet accueil-là et par ce filtre qui est un peu bouché, quoi. Donc on verra. On espère vraiment que ça va emmener plus vers la Volt et vers les auteurs de science-fiction et vers la science-fiction qu'on aime, et même celle qu'on n'aime pas.
Et là, dans le programme, dans ce qui sort après, parce qu'on a parlé de ce qui est sorti, dans l'année, de quoi tu as envie de nous parler ? Quel projet
Bah, on a redécouvert un texte très important d'Adoré Floupette, qui est très peu connu. Quelqu'un connaît Adoré Floupette ? Non ? Donc, Adoré Floupette, c'est une écrivaine qui a écrit énormément sur... ça se passe à Paris en 1891. Et il y a beaucoup de... C'est la limite du fantastique. C'est des sortes de forces... D'abord, c'est une ligue d'écrivains qui est pilotée par M. M, c'est Mallarmé, et ils résolvent des enquêtes. Il y a Alphonse Allais, Alfred Jarry qui enquêtent, ils résolvent des enquêtes parfois hyper glauques dans le Paris de 1891. Adoré Floupette, voilà, on va en entendre parler. Mais elle est morte depuis longtemps, hein. Puis on ne sait pas vraiment quand elle est née non plus, et elle est encore en train de naître. Et ça sortira en janvier. Voilà, ça c'est Adoré Floupette. Donc voilà, je vous parle de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rien que parler comme de ça, moi, quand on m'en a parlé, je dis ah ouais, ça, c'est trop, trop génial. C'est plusieurs histoires, plusieurs mystères comme ça qui sont résolus par cette ligue des écrivains. Voilà.
Donc janvier, si elle respecte les délais.
Oui, ah oui, c'est vrai. Non, mais au début, je crois toujours qu'ils vont respecter les délais, les auteurs. Ouais. Ah oui, en janvier peut-être, ouais. En janvier ou en février, quoi, 2020, je précise l'année.
Il nous reste très peu de temps parce que comme on a commencé en retard, parce qu'il y en a d'autres qui avaient pris du retard avant et on ne peut pas trop en prendre après parce qu'il y a la remise du prix, des prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions impromptues ? Ouais. Pourquoi les éditions La Volte ont quitté les réseaux sociaux ?
On a quitté les réseaux sociaux ?
Ouais, pareil, ouais.
Alors en fait, j'y vais jamais, mais ils m'ont prévenu, c'est parce qu'on a des valeurs, c'est ça ?
Je sais de ce qui sait.
Hein ? Ah oui, c'est moi qui sais. Parce que Facebook, c'est de la merde, c'est ça ? Et que, bon, en plus, ça m'arrange parce que je pense vraiment que ça sert à rien pour nous. Enfin, voilà. Et donc, autant servir de notre visibilité en ce moment pour essayer d'emmener des gens, leur montrer qu'il y a Mastodon, qu'il y a d'autres réseaux qui viennent aussi sur notre site et qu'on peut faire autrement. Voilà. Mais voilà, c'est cette tentative d'être plus cohérent. Tout en disant, je suis toujours le pour et le contre, on l'a quitté nous, mais en fait, mais c'est bien confortable parce qu'en fait, les autres, ils le font. Quand on fait un événement, bah, les Imaginales, ils créent un événement Facebook. Donc, on peut pas dire. Enfin, on l'a quitté nous en tant qu'actif, acteur. Et on en parle beaucoup. On rencontre aussi, on fait dans certains événements, on rencontre des associations, des logiciels libres qui expliquent comment ne pas utiliser certains outils, des GAFAM, utiliser d'autres outils. Je les trouve hyper bien, ils ne sont pas du tout culpabilisants. Enfin, réellement, ils disent, bah, tiens, tu fais comme tu peux. Donc voilà, ça, c'est comme eux, on essaye de tendre vers un peu plus de cohérence. Donc là, effectivement, voilà, faire de la pub sur... Enfin, on n'a jamais fait de pub, mais pratiquer le Facebook, ça ne nous correspondait pas. Et puis, je pense que le mal n'est pas très, très grand d'avoir quitté le réseau Facebook pour nous. C'était une excellente question, Stuart. C'est à cause d'elle, en fait, hein, c'est pour ça.
De toute façon, sur le site, on peut quand même retrouver beaucoup de choses aussi.
Oui, l'idée était de, voilà, d'attirer de faire vivre ce site encore plus. Donc bah, les gens, s'ils veulent se renseigner, viennent sur le site ou ils vont sur Mastodon.
Dernière question.
Vous avez dans votre catalogue quelques auteurs étrangers.
Le choix des auteurs étrangers, c'est des rencontres aussi... Ça veut rien dire des rencontres. Donc, bah, on a des amis, des auteurs, des autrices qui nous disent « Ah, bah, là encore à midi, mais vraiment, ils n'ont pas arrêté. Tu devrais faire ça et tu devrais faire ci. » Et puis, bah, de temps en temps. Alors maintenant, c'est même plus qu'avant. Il y a Marie Surgère qui est traductrice à La Talente et à La Volte, qui a traduit surtout chez nous les Jeff Noon, qui était le premier auteur étranger qu'on a publié, que j'avais découvert dans une traduction française, qu'on a refait complètement cette traduction française. J'adore Jeff Noon, et donc voilà, elle est traductrice, elle a traduit d'autres livres, et maintenant elle lit les manuscrits anglais surtout, enfin les manuscrits, les livres déjà publiés en anglais, et on crée des ponts comme ça, on a des propositions, voilà, et là aussi tout le temps je suis en train de dire... Donc, elle est missionnée pour ça. Et régulièrement, je dis non, mais on n'a pas de place pour les romans étrangers. Je voudrais garder en tout cas un équilibre, c'est-à-dire une majorité d'auteurs francophones. Et après, bah, quand on commence Doris Lessing, non, pire, je parle en termes de contraintes, pas de qualité. Quand on commence Valerio Evangelisti et qu'on se retrouve au 12e tome, bah, déjà, ça prend de la place hein, sur les enquêtes, enfin les aventures de l'inquisiteur Emmerich. Donc, voilà, je pense qu'un Evangelisti... bon, qui ne peut pas venir en France, il parle hyper bien français, mais parce qu'il est, il est malade. Il partage vraiment, enfin, voilà, on est, enfin, il serait là, c'est évident quoi, que c'est un camarade.
Oui.
Ah, camarade, c'était ça, oui, c'est vrai. Il y en a qu'un qui réagit quand on dit camarade, hein, vous devez lever le. Hein, il y en a des Voltais qui ne l'ont pas fait, hein.
Du coup, là, moi, j'ai l'impression que malgré quelques bêtises dites par-ci par-là, on a vu quand même assez sérieusement
bah,
la
du coup, Sabrina Calvo m'a pas trop trollé, c'est bien.
Non, ça va. Toi, ça va. Tu es content. Tu veux rajouter quelque chose sur comment ça marche.
Non, je suis content. J'espère que j'ai pas donné... Enfin, je suis quand même un peu euphorique, donc excusez-moi. C'est vrai que c'est bien. C'est nos 15 ans. Ça marche et il y a mes amis. Donc, je suis... Voilà, j'espère que j'ai pas donné une impression de « Ouais, vous avez vu, nous, on est super forts. » Voilà. Donc, c'est tout.
Non.
Et sinon, surtout, lisez les livres, quoi. Le reste, c'est bien, mais lisez les livres.
Ouais, lisez les livres.
S'il vous plaît.
Tous les livres, vous pouvez les retrouver sous la bulle. On a les auteurs qui sont là. Donc, allez voir, allez les rencontrer. Et surtout, rencontrer les livres. Merci beaucoup.
Merci.
C'est ça, c'est exactement comme tu as dit, c'est mon moment des 15 ans, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça.
C'est cool. C'est...